Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal.
Bonjour. Bonjour Toufik, bonjour à tous. 4 ans de prison ferme à l'encontre de Patrick Balkany. Le parquet national financier s'est voulu exemplaire hier lors de sa réquisition dans le procès pour fraude fiscale. Compte rendu dans un instant. Nous nous intéresserons ensuite à l'aide mise en place par certains syndicats étudiants à propos de Parcoursup. Les premiers résultats tombent depuis le milieu de semaine pour les jeunes inscrits et les déceptions peuvent être grandes. Et puis, nous avons appris la mort de l'architecte Yao Ming-pei. Il avait dessiné la pyramide du Louvre à Paris, mais il était aussi et surtout reconnu par ses pairs. Il se considéré comme un avant-gardiste, vous l'entendrez. Le mensonge a un prix que les époux Balkany doivent aujourd'hui payer. Voilà ce qu'estime le parquet national financier. Il a requis hier 4 ans de prison ferme à l'encontre du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. 4 ans, dont 2 avec sursis contre sa première adjointe et sa femme Isabelle Balkany. 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux. Le PNF a requis un mandat de dépôt à l'encontre de Patrick Balkany. Par ailleurs, il pourrait donc être incarcéré dès le jour du jugement si une peine ferme est prononcée. Le parquet se veut exemplaire pour lutter davantage contre la fraude fiscale, Sarah Guibaudot.
Pour le parquet national financier, les prévenus n'ont tiré aucune leçon de leur précédente condamnation en 1997 pour prise illégale d'intérêt. Isabelle Balkany achète la villa Pamplemousse aux Antilles via une société écran alors que son mari comparaît devant le tribunal correctionnel. La fraude fiscale de l'ancien ministre du budget était infiniment moindre, rappelle le substitut Arnaud Delaguiche. Jérôme Cahuzac avait fini par coopérer et il avait réglé son arriéré d'impôt en arrivant à l'audience. Il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme en première instance, peine ramenée à 2 ans ferme et 2 ans avec sursis en appel. Chacun son échelle des peines. L'avocat de Patrick Balkany s'insurge au contraire contre une justice rendue pour l'exemple et cite des jugements récents qui sont moins sévères. Il a fraudé, il va être condamné pour ça, plaide Éric Dupond-Moretti, mais c'est une autre époque. Et puis, le mandat de dépôt, est-ce que c'est utile, demande l'avocat, comme si le combat était surtout d'éviter au maire de Levallois d'être incarcéré, alors que lundi commence le deuxième procès où il est jugé pour blanchiment et corruption.
Et notons que le jugement dans la première affaire sera rendu le 13 septembre. Va-t-on vers un déremboursement des médicaments homéopathiques ? La Haute Autorité de Santé vient en tout cas de publier un projet d'avis favorable à ce déremboursement. L'organisme estime que les produits homéopathiques offrent un rendu médical insuffisant. Les laboratoires vont maintenant pouvoir répondre avant que l'avis définitif ne soit rendu le mois prochain. Lutter contre les contrats courts en général, c'est l'un des objectifs de la CGT en marge de la réforme de l'assurance chômage. La CGT, dont le 52e congrès annuel s'achève aujourd'hui à Dijon. Sauf énorme surprise, le secrétaire général Philippe Martinez, seul candidat à sa succession, sera réélu pour un nouveau mandat à la tête de la CGT. Et ce, malgré la zone de turbulence traversée en ce moment par le syndicat. Entre la baisse du nombre d'adhérents et la contestation des gilets jaunes, la CGT serait-elle dépassée ? Invité du journal de 22h hier sur France Culture, le politologue Jean-Marie Pernaud, spécialiste des mouvements sociaux, a livré son analyse.
Il y a eu d'entrée de jeu une méfiance sur le fait que à la base antifiscale de ce mouvement pouvait ressembler effectivement à des choses qu'on a connues dans l'histoire, qui étaient plutôt animées par des courants de droite ou d'extrême droite. Bon, en l'occurrence, c'était pas ça, la suite l'a montré, enfin le mouvement était beaucoup plus divers que ça. Mais en tout cas, beaucoup de militants CGT au niveau local sont allés sur les carrefours, etc. et ont découvert un peu cette complexité que la Confédération n'a saisie que tardivement. Et puis je crois que ce mouvement qui a des effets sur la politique du gouvernement, eh bien, il y a une certaine frustration syndicale parce que d'abord il est parti en dehors d'eux, il s'est maintenu en dehors d'eux, ce qui est nouveau dans notre histoire sociale. Je crois qu'il y a vraiment cette frustration, c'est quand même la première fois que ça arrive à la CGT.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Refusé, admis, en attente, les premiers résultats aux vœux d'études sont tombés sur la plateforme Parcoursup mercredi soir. Une phase d'admission qui va se poursuivre jusqu'au 19 juillet. Juillet prochain pour les près de 900 000 candidats aux études supérieures. Et pendant ce laps de temps, difficile pour certains jeunes, la FAGE et l'UNEF mettent à leur disposition des sites internet pour les accompagner. C'est la deuxième année consécutive que les deux principaux syndicats étudiants proposent cette aide, Olivia Chandiot.
Depuis les premiers résultats, la boîte mail du site SOS Parcoursup créée par la FAGE chauffe déjà. Les candidats viennent chercher conseil et réconfort, comme l'explique Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant.
On reçoit beaucoup de mails sur la plateforme qui nous disent « voilà, je suis en attente un peu partout, comment je fais, etc. » Donc il y a déjà un premier travail qui va être de les rassurer, de prendre en compte leur situation et dans un premier temps de leur dire qu'il faut attendre quelques jours avant d'être fixé. Donc on a d'abord un travail de rassurer les jeunes.
Un travail essentiel pour Louis Boyard de l'Union Nationale Lycéenne, car l'orientation post-bac, c'est une véritable épreuve.
Quand je parle d'une souffrance, d'être 8 millième en attente et d'être refusé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voulait faire plus tard dans la vie, donc c'est tout un projet de vie qui s'écroule sous nos yeux en un jour. Vous êtes seul entre vous, votre écran et votre conscience, et c'est encore une fois très très dur à vivre.
Cette angoisse grandira crescendo jusqu'en septembre pour ceux qui n'auront toujours pas eu de réponse, d'où l'importance de solliciter les plateformes, insiste Orlane François. L'année dernière, année de lancement, la FAGE a accompagné 1500 jeunes.
Plus on va se rapprocher des dates limites, plus on va avoir un accompagnement qui va être de l'aider à trouver des places dans la formation de son choix. Et donc là, c'est l'accompagner vers la commission d'accès à l'enseignement supérieur du rectorat. C'est s'assurer que la loi est respectée, parce que la loi, elle garantit une place dans la formation de son choix à chaque jeune. Le vrai problème, encore une fois, c'est la place l'enseignement supérieur, c'est ça qui manque en priorité. Ce qui pêche dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de formations, c'est le manque de place. Donc à partir du moment où il restera un manque de financement, on aura toujours des jeunes à la rentrée qui seront dans une formation qui ne leur correspond pas, ou pire, qui n'auront pas d'affectation.
Selon les syndicats étudiants, à la rentrée prochaine, encore plusieurs milliers de candidats se retrouveront sans formation.
Il était l'un des architectes les plus connus au monde. Le sino-américain Yao Ming Pei est mort la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Pei avait notamment repensé le musée du Louvre au milieu des années 80. Il avait bâti la fameuse pyramide en verre. Mais pendant un demi-siècle, il a aussi dessiné de nombreux bâtiments dans le monde entier. Il était d'ailleurs reconnu chez lui aux États-Unis, Gregory Phillips.
Le voici en 1983, quand il reçoit le prix Pritzker, considéré comme le Nobel d'architecture. Pei a déjà une longue carrière derrière lui. Arrivé à l'âge de 18 ans aux États-Unis, il a étudié au MIT, puis à Harvard. Ça vous amuserait sans doute de savoir que dans les années 40, une maison que j'avais dessinée à Cambridge pour un ami avait été considérée comme invendable parce que trop moderne. Mais effectivement, j'appartiens à cette génération d'architectes américains inspirés par le modernisme. Au milieu des années 60, Jackie Kennedy demande à Pei de bâtir à Boston le mémorial et la bibliothèque dédiée à son mari assassiné. Puis ce sera la National Gallery à Washington, et en 83, en France, Pei est choisi par François Mitterrand pour repenser entièrement le musée du Louvre. Voici l'architecte 6 ans plus tard, suivi par la télévision américaine, sous la pyramide du Louvre, inversée. J'ai trouvé ça amusant de faire, comme disent les Français, une folie. Alors j'ai renversé la pyramide vers le bas. Ça amène la lumière d'en haut, sans occuper l'espace. Le cabinet new-yorkais de Pei enchaînait les projets à travers le monde, tandis que lui, sur la fin de sa carrière, préférait se consacrer à des chantiers plus personnels, comme le musée d'art de Suzhou, la ville de son enfance, près de Shanghai.
Yao Ming Pei est donc décédé, il avait 102 ans. Des pourparlers de paix entre gouvernement et opposition vénézuélienne, ils se déroulent cette semaine à Oslo, en Norvège, mais selon l'opposant au pouvoir Juan Guaido, il n'y a pour le moment aucune forme de négociation avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Nous en venons à cette énigme désormais résolue. Les nombreux séismes ressentis à Mayotte depuis un an ont pour origine l'éruption d'un volcan sous-marin. Il se trouve à 50 km à l'est de l'île, située dans l'océan Indien, et il a été découvert par plusieurs organismes scientifiques français. Sophie Bécherel a pu les joindre.
C'est quand même un beau bébé, hein, parce que ça fait 4 km de diamètre. Et 800 mètres de haut.
Éric Humler, chercheur au CNRS, a coordonné la campagne Éclair, mise sur pied pour tenter de comprendre pourquoi Mayotte, jusque-là tranquille et sans activité sismique connue, avait enregistré 1800 secousses depuis un an. Grâce au sismomètre déposé au fond de l'eau, grâce à des relevés bathymétriques, ce volcan qui a émergé des fonds abyssaux a pu être décrit.
Il est au fond de l'océan à 3500 mètres de profondeur. Et il y a un panache de gaz qui sort du sommet de ce volcan, qui est un panache qui fait 2 km de haut. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la surface du bois de Boulogne et 2,5 fois la hauteur de la tour Eiffel.
Sur un précédent relevé des fonds marins réalisé il y a 4 ans par un navire militaire, le volcan était absent. Sa naissance est donc récente. Elle enthousiasme les chercheurs. Anne Friant est directrice adjointe des observatoires à l'Institut de physique du globe de Paris.
On peut dire que c'est une découverte extraordinaire. On n'a pas souvent l'opportunité d'assister assister comme ça à la naissance d'un volcan, en fait. Hein. C'est très rare.
Va-t-il continuer à grossir ? Impossible à prédire, disent les scientifiques, pour qui il faut continuer la surveillance. Ils ont cependant estimé à 20 ou 30 km de profondeur l'épicentre des secousses sismiques. C'est beaucoup et c'est une bonne nouvelle car cela réduit la puissance des tremblements de terre ressentis par les Mahorais.
Une chaude humidité à Mayotte ce vendredi. En France métropolitaine, nous n'aurons que l'humidité aujourd'hui. Une dégradation arrive par le sud pour gagner l'Île-de-France et Rhône-Alpes à la mi-journée. Comptez 13 degrés ce matin à Amiens, 15 à Besançon, Lyon et Bordeaux, 16 degrés à Paris et sous la pluie à Nice.